Comme il l'avait probablement prévu, Leonide Ducatore avait à présent capté toute l'attention de ses hôtes. Toutefois, il n'avait pas encore dissipé toutes les craintes et les réserves. Présentée sous ce jour, la combinaison est effectivement prometteuse, convint le podestat Actanza. Mais pesons aussi les risques d'une telle opération si jamais elle ne portait pas les fruits escomptés. À titre privé, Don Leonide, vous aurez investi une somme énorme. Le trésor aura également payé fort cher l'expédition militaire. Tout cela en pure perte.
Sans compter qu'un échec de cette ampleur ferait passer votre politique pour aventureuse, ajouta Regento Balsamire. Au Sénat, cela fragiliserait la loyauté des ralliés de la dernière heure.
Le podestat hocha obligeamment du chef. Vos conseils de prudence sont légitimes, salua-t-il, et j'ai naturellement envisagé les conséquences d'une défaite. Nos forces n'étant pas engagées en première ligne, nos pertes humaines et matérielles seraient marginales. Quant à la perte financière, elle serait en effet importante à court terme, mais compensée à moyen terme. Un tel échec serait surtout préjudiciable à Ganelon de Bromel. Ses caisses en sortiraient vidées, son autorité affaiblie. Sans doute aurait-il à juguler des séditions dans ses états et des contre-attaques aux Romandes sur sa frontière. Désargenté, il serait contraint de se tourner vers nous. De toute façon, quelle que soit l'issue de cette campagne, il redeviendra dépendant de nos moyens. Et si, faute de conquête à exploiter, il n'a pas les moyens de payer les intérêts de ses nouvelles dettes, nous pourrons négocier des exemptions qui favoriseront nos affaires. Nos bénéfices ne seront sans doute pas aussi conséquents que si nous avions disposé d'un port franc, mais en définitive, nous y gagnerons quand même. Admettons que l'opération se révèle profitable, quelle que soit son issue, repartit le sénateur Punzone. Ne risquons-nous pas de dégarnir nos autres routes commerciales en envoyant une flotte si loin des mers que nous contrôlons? La paix avec Récine est fragile. La raréfaction de nos galères de combat dans l'archipel pourrait encourager le chat à reprendre les hostilités.
Le chat, Eurymaxas, cherchera sans doute à prendre sa revanche, admit le podestat.
Mais une offensive de sa part serait prématurée tant qu'il n'a pas reconstitué sa marine. Sur ce front, nous disposons encore d'un répit de plusieurs années. Pour la première fois, Célesté Faléry sortit de sa réserve afin de donner son sentiment.
La flotte de guerre du royaume de Récine n'est pas encore en mesure de nous inquiéter, convint-il. Mais n'oublions pas que Rimaxas a offert l'asile aux proscrits. Plusieurs maisons en exil utilisent l'archipel comme base pour pratiquer la piraterie contre nos bâtiments. Il est de notoriété publique que les ports de Lazaya et de Siparissa sont devenus des nids de forbans, où les Sourmatici, les Cotilla et les Sicarini ont armé des navires pour la course.
Aussi nous garderons-nous de suspendre notre veille sur les eaux de l'archipel, rétorqua le podestat. Nous conserverons une escadre pour défendre Kyr, une autre ici, à Castelnuovo, et une troisième pour patrouiller sur la mer miragineuse. Nos forces seront certes moins importantes sur ces routes maritimes, mais nous pourrons compenser cet affaiblissement temporaire en organisant des convois de navires marchands. Regrouper nos bâtiments de commerce permettra aux escadres de les défendre efficacement. Avec un léger froncement de sourcils, Leonide Ducatore jugea bon d'ajouter « Ne négligeons pas non plus les proscrits qui ont trouvé refuge en Bromel, comme le gonfalonier Carnefice ou la famille Coronazione. Tant que nous épaulons la politique ducale, nous dissuadons Ganelon d'utiliser ses transfuges contre nos intérêts.
Pour l'instant, ils nous sont moins préjudiciables que ceux qui ont pris la mer,
objecta le sénateur Monatore. Pour l'instant, Don Gategia, repartit le podestat. Mais précisément parce que le soutien que nous apportons au pouvoir ducal est plus utile que le leur. Toutefois, cela n'empêche pas ces exilés de fréquenter l'entourage de ma fille, dont la ligne de conduite s'est parfois révélée, disons, inconstante. Ne sous-estimons point les moyens des coronationes. Ils ont des liens d'affaires et d'hospitalité avec les familles de Bellestance et de Landeviès. Grâce aux créances dont ils disposent toujours dans le duché, ils conservent un réel pouvoir de nuisance, quelque banni qu'il soit. Continuer à flatter les sympathies de Ganelon me paraît être de bonne politique pour neutraliser ce risque sur nos marches continentales. Ces propos suscitèrent des approbations polies, mais pas forcément très convaincues. L'aristocratie de la République restait tournée vers la mer et fondait l'essentiel de sa prospérité sur le négoce au long cours. La menace de quelques navires pirates au large la rendait plus nerveuse que l'offensive de toute une armée hostile par voie de terre. Le patron, qui connaissait fort bien ce biais tchoudalien, s'employa à faire glisser la conversation. Il avait sans doute gardé un atout dans sa manche en cas de besoin, qu'il jugea bon d'abattre alors. Du reste, ne perdons pas de vue les bénéfices plus immédiats que pourront faire nos maisons de commerce, signala-t-il. Il va falloir procéder à l'adjudication des fournitures de cette expédition, en fournissant non seulement le ravitaillement de notre flotte, mais aussi une partie de celui des troupes ducales. C'est une opération intéressante à court terme. Il y a fort à parier que ces achats de gros auront une incidence sur le cours du blé. Là encore, des opportunités conséquentes se présenteront à des esprits avertis dès la période de soudure. Le podestat n'eut pas besoin de préciser sa pensée. Un silence entendu retomba sur le petit cénacle de Rupin. Que l'expédition remplisse sa mission ou disparaisse corps et biens, il y aurait de toute façon une grosse galette à se partager dès le départ pour ces profiteurs de guerre. Et comme le podestat avait eu la délicatesse de leur glisser la confidence suffisamment tôt, ces affidés auraient le temps de se retourner pour remplir leurs greniers et leurs entrepôts avant la flambée des prix. De sorte que même si l'entreprise planifiée par le patron restait entachée d'incertitude, il était difficile de résister à l'opportunité d'une si bonne affaire. En soutenant Léonide Ducatore avec les arguments qu'il venait lui-même de leur exposer, les cinq patriciens obtiendraient facilement un vote favorable des différents groupes du Sénat. Ensuite, il leur suffirait de se répartir à parts égales les adjudications au cours de délibérations préalablement négociées, et chacun d'eux remplirait ses coffres d'argent public, en donnant l'illusion d'avoir opéré en toute transparence. À partir de ce moment, la conversation connut un infléchissement subtil mais déterminant. Certes, les interlocuteurs continuèrent à soulever les difficultés que posait le plan du podestat. Cependant, ils ne poussaient guère leurs arguments et se laissaient doucement persuader. Désormais, ils se souciaient davantage de voiler leur cupidité que de pointer les risques d'une pareille expédition. Léonide Ducatore, qui entendait parfaitement ce double langage, se prêtait complaisamment à leur manège et se félicitait à haute voix d'être conseillé par des âmes intègres qui faisaient passer le bien de l'État avant leurs intérêts particuliers. Les vieux rapaces finirent par se rendre aux raisons du patron, non sans afficher encore quelques réserves ou quelques scrupules destinés à faire monter les enchères. Toute cette noble société se sépara finalement avec force accolade et congratulations, ravi d'avoir si honnêtement débattu des destinées de la République. Quand il eut accompagné ses hôtes en haut de l'escalier au médaillon, le podestat regagna la loggia marine en nous entraînant avec lui. Au moment où j'étais sorti sur le palier, j'avais éprouvé un léger soulagement en ayant l'impression d'y voir plus clair. Mais sitôt de retour dans la galerie, je me sentis à nouveau comme étourdi par le contre-jour. Compensant cet éblouissement, Mon odorat s'affina de façon aussi soudaine que déconcertante. Au parfum léger de pin et d'herbes fauchées remontées du jardin, se mêlaient des fragrances plus chargées. Des essences de myrrhe et de cannelle assorties de je ne sais quel esprit acide. Le patron reprit sa place et nous invita du geste à nous asseoir sur les sièges que venaient de quitter les sénateurs.
« Eh bien, l'affaire est lancée !» se réjouit tranquillement Leonide Ducatore.
Il est encore un peu tôt pour présager de la suite, mais j'ai bon espoir qu'elle ira là où elle doit aller. À cette fin, il faut nous préparer à son exécution. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que vous assistiez à cette entrevue. »
D'un geste, il demanda à boire. Comme d'habitude, il n'avait rien avalé en présence d'invités, même s'il avait fait mine de picorer dans les encas. Pendant que son valet Scaltro lui remplissait une coupe de vin, y trempant les lèvres avant de la servir, le podestat se tourna vers son neveu.
« Quelle est ton opinion, Cesarino ?»
Nos amis se sont fait un peu tirer l'oreille. Avant de considérer où se trouve leur intérêt, je pense qu'ils vous seconderont au Sénat. J'imagine aussi que leur soutien s'évanouira si jamais l'expédition bromaloise tourne de travers.
C'est à craindre, en effet. Il conviendra de parer à toute éventualité.
Le regard du podestat se posa ensuite sur ma personne, avec une expression naturelle et aimable, comme s'il ne venait pas de passer une heure à m'ignorer.
Et toi, Benvenuto, que t'a inspiré cette conversation ?
Je ne sais pas trop, Excellence. J'ai débarqué pendant l'entremets et je ne connaissais pas le menu.
Allons, allons, un fin gourmet comme toi ne sera pas gêné pour si peu. Qu'en as-tu pensé ?
En fait, j'ai trouvé que leurs seigneuries ont fait de drôles d'empaillés. Un peu trop pour être d'équerre.
Le patron me décocha un sourire de connivence. Tu as eu cette impression, toi aussi ?
Oui, Excellence.
C'est quand même bizarre qu'il n'ait pas cherché à creuser du côté de vos rapports avec le duc. C'est le cœur de la transaction. Si Ganelon vous plante, c'est toute l'opération qui part en eau de boudin. Mais ils ont à peine effleuré le sujet, alors que, bien sûr, ils y cogitaient tous.
Qu'en déduis-tu ?
Ils ont esquivé le sujet parce qu'il leur paraît savonneux.
Sans doute parce qu'ils vous soupçonnent de renforcer votre pouvoir personnel en favorisant votre gendre. Après tout, Bromel fait partie de la famille Ducatore à présent. Si Ganelon se sent redevable, il pourra vous rembourser avec une autre monnaie que de l'or. Une armée, par exemple. Seulement, osez suggérer que le podestat de la République pourrait asseoir son autorité à l'aide de troupes étrangères, cela sent sérieusement le roussi. Voilà pourquoi ils n'ont pas moufté. Mais ils vont se tenir sur leur garde.
Et crois-tu que pareille chimère pourrait leur donner des idées séditieuses ?
Je ne suis pas dans leurs chausses. On peut dire que tout est affaire de balance, tant qu'ils y gagnent et qu'ils ne se sentent pas menacés. Ils marcheront avec vous. Dans le cas contraire,
le podestat approuva distraitement de la tête comme si je venais de sortir une évidence. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que nos amis tirent leur épingle du jeu, repartit-il. Nous allons donc nous employer à ne pas les décevoir. Pour l'un d'entre eux, à vrai dire, la faveur a déjà été accordée. J'avais préalablement convenu avec Don Celeste qu'il obtiendrait le commandement de cette flotte. Il s'est gardé de le montrer trop ouvertement, mais il est déjà tout acquis à notre cause. Puisque nous disposons du chef militaire, reste à pourvoir le poste d'ambassadeur auprès du duc.
Tout en prononçant ces mots, Leonide Ducatore laissa ses yeux errer jusqu'à son neveu. Celui-ci haussa les sourcils.
« Vraiment ? » s'étonna-t-il.
« Vous souhaiteriez me renvoyer en Bromel ? »
Tu connais déjà la cour ducale, Cesareno. Tu es charmant, et j'ai toute confiance en toi. Mais je ne suis pas sénateur. N'est-ce pas un peu cavalier vis-à-vis du duc? Oh, la délégation comportera des sénateurs, à commencer par l'habile Don Celeste, et puis peut-être une autre personnalité à laquelle je songe. Mais n'oublie pas que chez un grand féodal comme mon gendre, le sang importe davantage que les mandats et les charges. Tu es de la famille. Mieux encore, tu es sans doute le seul homme du clan du Catoré pour lequel Clara ait de l'affection. Hormis ses idiots de frères. Tu es donc indispensable.
Je vais finir par devenir à moitié bromalois, plaisanta le jeune Patrice en faisant allusion à son récent voyage dans le duché.
Cela te permettra d'y cultiver un réseau d'amitié? Et puis, je compte sur toi pour garder un œil sur l'un de tes collègues, un de ces sénateurs que tu juges plus digne de ses fonctions. Je vais inviter Diletino Schernitore à se joindre à nos émissaires.
Cette déclaration m'emboucha un coin, et fit également réagir les autres familiers du patron. Même Spada Matado, qui avait respecté jusque-là une stricte réserve, parut surpris. Et plutôt défavorablement.
Je me suis réconcilié avec Don Diletino, dit Cesareno, et je le trouve même plutôt amusant. Mais pensez-vous vraiment qu'il sera l'homme de la situation?
Schernitore est nuisible. Il n'a aucun talent, il n'est pas fiable,
grommela Matado.
Exceptionnellement d'accord avec le vétéran, je crus bon d'ajouter mon grain de sel.
C'est une planche pourrie. Il vous a déjà trahi, et puis il a trahi son père. Il recommencera.
Ces mouvements de rejet eurent l'heure de divertir le podestat.
Quelle prévention vous avez contre ce pauvre garçon ?
Feignit-il de s'offusquer. Qui n'a pas commis quelques erreurs de jeunesse ? Après tout, Don Diletino a fait preuve de sagesse en réintégrant le parti souverainiste. Pourquoi ne pas lui accorder une seconde chance?
La sagesse en question, sa seigneurie Diletino Schernitore, l'avait acquise à la dure, à force de calotte, alors qu'il croyait qu'on allait le noyer dans un bassin du port ou le pendre à une fenêtre du palais curial. Je m'étais personnellement chargé de son cas à la fin de la guerre civile, et j'éprouvais toujours du dégoût d'avoir dû secouer cette chiffe molle. La seconde chance, on la lui avait déjà donnée. Pourtant, je m'abstins d'étaler ses états d'âme, parce que s'il y avait une faiblesse dont je ne pouvais pas soupçonner le patron, c'était bien l'indulgence. En nommant ce tocard dans son ambassade, Leonide Ducatore avait sans doute une idée derrière la tête. Une idée où la magnanimité n'était qu'une grimace.
Don Diletino n'est-il point un arbitre des élégances? Poursuivait le podestat avec un sourire en coin. Ne se pique-t-il pas parfois de poésie? N'a-t-il pas soupiré après les faveurs de Clara quand elle était jeune fille? En vérité, voici un gentilhomme taillé pour plaire à une cour courtoise.
Vous vous moquez de nous, mon oncle,
le reprit Cesareno en riant. Il va falloir inventer des contes plus convaincants si vous cherchez vraiment à dissimuler vos raisons.
Eh quoi, est-il si difficile de deviner que je veux émousser la méfiance de Ganelon? Si je suis réduit à lui déléguer Diletino comme mon représentant, il croira la noblesse tchoudalienne vraiment décadente, ou me verra politiquement plus mal entouré que je ne le suis.
Mais réussirez-vous seulement à lui envoyer notre ami? Don Diletino est si occupé en travaux de décoration et en bal que je le conçois assez difficilement prendre la mer pour plusieurs mois.
Le podestat esquissa un geste désinvolte.
Je lui ferai une offre qu'il ne pourra refuser,
badina-t-il.
Je ne parle pas de façon imagée. Le jeune sénateur Schernitore jette sa fortune par les fenêtres. Plus regrettable encore, ses folies sont en train de dissiper son crédit.
Il risque de se retrouver très vite aux abois. Je vais lui proposer un prêt de 10 000 florins à taux d'amis, à charge pour lui de trouver des créanciers bromalois à qui il réclamera des intérêts plus substantiels. La différence sera pour lui. Il a tellement besoin d'argent qu'il sera bien forcé de t'accompagner.
À moins qu'il ne dilapide tout cet or en stuc, en toilette et en joli garçon, grogna Matado.
Évidemment, c'est un risque, admit le patron d'un air dégagé, avant d'ajouter sur un ton plus sec.
Mais dans ce cas, il me devra toujours 10 000 florins.
Le sujet devenait sensible. Nous venions de sentir le fer sous le velours. Il était assez clair que le podestat cherchait à pousser Diletino Scernitore à la faute, et je croyais même en deviner la raison. En écartant l'incapable, il ouvrirait la voie vers le palais curial à l'aîné des neveux du sénateur Scernitore, Centellino. Et comme Centellino n'avait qu'une 10aine d'années, la maison Scernitore tomberait complètement sous la coupe de la maison Ducatore. Matado, qui pratiquait le patron depuis des lustres, devait pressentir son calcul aussi bien que moi. Toutefois, il conservait la mine fermée qui, chez lui, trahissait la désapprobation.
« Pourquoi se contenter de 10 000, quand on peut mettre la main sur 400 000 florins ?»
Finit-il par lâcher. Le podestat éleva une main conciliante. « Ah, mon cher Spada, voici une observation pleine de bon sens, » approuva-t-il. « En toute franchise, je crois, Don Diletino, trop brouillon pour réussir un escamotage aussi magistral. Mais on n'est jamais trop prudent. » Se tournant vers moi, il ajouta de son air le plus aimable, « C'est pourquoi j'avais caressé l'espoir que tu pourrais te joindre au voyage, Benvenuto. Que dirais-tu de devenir le grand argentier de cette ambassade ? Ta moralité sans faille dissuaderait certainement les indélicats d'approcher de trop près la dot de Clara. » Nous y étions. Voilà pourquoi le patron m'avait convié à cette petite causerie. Il avait décidé que j'avais suffisamment amusé la galerie à Tchoudalia et que le prix, très confortable, de mes services serait mieux amorti ailleurs. Je serai donc de l'ambassade. Et pour parler sans détour, ce fut loin de me combler de joie. J'avais déjà tâté de la diplomatie au service du grand homme et j'en étais revenu salement amoché. Alors, d'accord, cette fois, il ne m'envoyait pas négocier en secret avec l'ennemi, mais il me chargeait de convoyer 400 000 florins, 400 000 florins, ce qui, objectivement, était 400 000 fois plus dangereux. En plus, tout ça en bateau, pour la plus grande félicité de mon estomac. Et au terme de la traversée, il faudrait remettre cette montagne d'or à l'époux de Clarissima Ducatore, devenue la duchesse Clarissima de Bromel, avec laquelle je craignais malheureusement d'être resté un peu en froid. Sans parler de Diletino Scernitore, qu'il faudrait se farcir pendant tout le voyage. Je vis tout de suite la corvée se profiler, et pas seulement l'obligation barbifiante, mais le défilé pourri de hausse-pied. Bien sûr, je n'affichais rien de mes réticences. Je me gardais également de singer la reconnaissance ou l'allégresse. Quand on fraye avec un grand squale comme Leonide Ducatore, il est vital de lui dissimuler vos faiblesses. Il est tout aussi crucial d'éviter de piquer sa défiance en lui jouant la comédie. Je me contraignis donc à rester de marbre. Il faudra juste que j'en cause à qui de droit, me contentai-je d'observer sur un ton neutre.
Cela va de soi, répondit obligeamment le podestat.
Si tout roule avec l'honorable société, je suis votre trésorier. Elle est bien bonne. J'ai connu un paquet de mauvais garçons que cette promotion aurait fait drôlement rigoler.
La plaisanterie avait bien sûr pour but de dissimuler mon dépit. J'essayais d'enchaîner avec une assez piteuse tentative de dérobade.
J'imagine que vous avez déjà quelqu'un de trapu pour veiller sur votre sécurité en mon absence.
Ta conscience professionnelle t'honore, ironisa le podestat. J'ai toute confiance dans l'efficacité de Spada et de ses fines lames.
C'est sûr. Voilà de sacrés bretteurs, mais vous savez très bien de quoi je cause. Il y a des problèmes qu'une troupe de spadassins ne suffit pas à arrêter.
N'ayant pas toutes tes lumières sur la question, je ne me représente que fort imparfaitement le péril, mais je pense pouvoir me passer de toi quelque temps.
Et sur un ton matois, il ajouta
« Quelle est votre opinion sur la question, sapientissime ?»«
Que le chic de Don Benvenuto nous fera cruellement défaut. » répondit une voix grave qui me glaça les os. Je ne fus pas le seul à frémir. Le même haut le corps raidit Cesarino, Matado, jusqu'au valet. Tout à coup, la loggia marine me parut moins indistincte, et nous nous y retrouvions 6 personnes au lieu de 5. Confortablement installés à l'extrémité d'un sofa, dans l'angle le plus ombreux de la galerie, le sorcier du podestat jouait avec un style sur l'écritoire portative juché sur son genou. Cependant, même privé de son assistance, nous devrions pouvoir nous débrouiller, poursuivit-il en me coulant un sourire complaisant. Je ravalai un juron en toisant le moricaud. L'atmosphère bizarre qui avait brouillé mes sens aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et pourtant, je m'étais fait avoir une fois de plus. Le sapientissime Sassanos avait employé ce tour traître qui lui permettait de se faufiler un peu partout, ni vu ni connu. Ce serpent avait assisté à toute la rencontre avec les sénateurs. Et s'il avait été animé d'intentions malveillantes, je ne doutais pas que les invités du podestat en seraient sortis empoisonnés, envoûtés, ou pis encore.
« Tu manqueras à notre docte ami, » me taquina le patron. « Mais s'il est lui-même disposé à cette séparation, je crois que tu pourras voyager la conscience tranquille. »
« Bien sûr. » Il avait parfaitement deviné mes réticences. Il était même plus que probable qu'il les avait anticipées. En fait, je le soupçonnais d'en avoir joué, car il savait pertinemment que je ne pouvais pas m'ouvrir de certaines de mes raisons devant des tiers. Pour le podestat, en tout cas, la chose paraissait entendue, et il se désintéressa de ma petite personne. Se tournant vers son sorcier, il lui demanda sur le ton de la conversation
« Et vous, sapientissime, qu'avez-vous pensé de cet entretien ?»«
Rien de pertinent, Excellence. » Je suis dépourvu de tout sens politique et l'écheveau des relations entre les maisons tchoudaliennes m'est toujours aussi opaque. Allons donc, vous péchez par modestie, mon cher. Pouvez-vous au moins me dire si mes invités se méfiaient de moi? Ils portaient tous des amulettes de protection, des colifichets contre le poison et la mort violente.
Eh bien, la confiance règne.
Il s'agissait de charmes mineurs, dont ils ont l'habitude de se munir au cours des séances au palais curial. Cependant, 2 d'entre eux étaient nantis d'enchantements plus puissants. Parmi ces bagues, le podestat Actanza porte un cristal bleu qui protège son esprit contre les illusions. J'ai dû faire appel à un art très élaboré pour qu'il ne me perçoive pas. Quant au sénateur Monatore, 3 des médaillons de sa chaîne pectorale sont en argent poli. Je suis à peu près certain qu'ils servent d'amulettes opératoires pour une indiscrétion catoptromantique. Cette conversation a probablement été suivie par des épieurs. Pareille hypothèse n'eut pas l'air de formaliser le podestat.
« Fort heureusement, nos manières sont restées irréprochables, » badina-t-il.
La possibilité d'avoir été espionné par un mage stipendié n'impressionnait pas davantage son neveu. La fréquentation des astrologues, devins et autres démonolâtres faisait partie des mœurs aristocratiques à Tchoudalia. Un patricien respectueux d'un certain art de vivre se passait aussi difficilement de son ensorceleur personnel que de ses estafiers et valets de garde-robe. Aux règles de la politesse, aux usages de la politique et de la finance, il était naturel de superposer tout un écheveau de pratiques et de tricheries occultes. Cela faisait partie de la couleur locale. Mais une couleur qui pouvait se teinter de nuances vraiment sinistres. Si les forces à l'œuvre dans l'invisible n'avaient pas l'air de causer grand tracas à l'aimable Cesarino, en revanche, il se préoccupait de la mission que lui avait réservée son oncle. « Je serais ravi de féliciter Clara pour la naissance de mon petit cousin Léoguerre, » reprit-il. « Et ce seul motif me suffirait pour faire le voyage. Mais j'imagine que vous aurez d'autres tâches à me confier. »«
Eh bien, apportez 200 000 florins en lettres de change, en plus des coffres d'or que convoiera Don Benvenuto, me semble une mission tout à fait suffisante, » sourit le podestat.
C'est même une tâche assez intimidante, dont je mesure toute la responsabilité. Mais une fois que je serai en présence de leurs altesses ducales, ne pourrais-je en profiter pour délivrer d'autres messages? Et que devrais-je faire pendant l'offensive? Accompagner la cour en tant qu'ambassadeur?
Je m'en fie à ton jugement. Fais au mieux pour servir nos intérêts.
Le jeune Patrice afficha une mine un peu déconcertée.
« Je suis touché par votre confiance, mon oncle. Mais cela me paraît bien nébuleux. Je crains de desservir notre cause et celle de ma cousine, si j'agis mal à propos. »
« Sur le plan militaire, j'aurais donné mes instructions à Don Céleste. Tu n'auras pas à te soucier du commandement de la flotte. En ce qui concerne nos relations diplomatiques, agis selon les circonstances. Je ne t'investis d'aucun pouvoir, sinon de m'en référer pour toute proposition que tu recevras du duc ou d'autres parties. Et je ne te donne aucune consigne qui risque de réduire ta marge de manœuvre en matière de négociation. »
Cesarino ouvrit les bras d'un air cocasse.
« En somme, je suis libre de tout entreprendre et tenu de ne rien conclure. C'est brillamment résumé. Je vois que tu es taillé pour cette fonction. Cela demeure quand même terriblement vague. Si le duc me demande quelles sont vos intentions, que lui répondrai-je?
Ce qui lui plaira, puisque tu n'auras pas le pouvoir de nous engager.
Devrais-je lui mentir?
Pas nécessairement. L'important est de parler à propos plus que de parler vrai. Songe que tu pourrais t'exprimer sincèrement et te retrouver ensuite incapable de tenir parole. Le résultat serait identique.
Je me sentirais quand même plus assuré si vous me donniez une direction, même générale.
Le podestat joignit les mains et jaugea son neveu avec un rien d'impatience.
« Je t'ai connu plus vif, Cesarino.
Ne comprends-tu toujours pas ce qu'est l'action politique?
Il s'agit moins de façonner le cours des choses que de le maîtriser. Pour exercer une autorité sur le monde, il faut d'abord en saisir la pente, puisque le fil des événements peut t'amener à te dédire n'importe quand. La sagesse est d'exprimer ce qu'il est utile de dire, sans que cela t'engage véritablement. »
Et voyant que son protégé appréhendait la leçon, mais paraissait avoir quelques difficultés à la faire sienne, il ajouta d'un air ennuyé,
« Pourquoi donc t'entraver avec des instructions, des consignes et je ne sais quel ordre de mission? Je vais te fournir quelque chose de bien plus utile, des principes.
Je vous en serai reconnaissant. Et pourtant, j'aurais préféré que tu les devines par toi-même. Tu les aurais appliquées avec plus de naturel, enfin, qu'importe. Pour ta gouverne, ne perds jamais de vue cette rose des vents. Qu'elle s'appelle la loi, la coutume, la tradition, la morale, le dogme ou que sais-je encore, on doit toujours s'orienter par rapport à la règle. Mais on peut la considérer selon quatre directions cardinales. On peut jouer le jeu, cela consistera à se conformer à l'esprit de la règle, ou bien on peut juste jouer la règle du jeu. On fera mine de se plier à l'esprit de la règle, mais on n'en suivra réellement que la lettre. Naturellement, on peut tricher, ce qui consistera à simuler le respect de la règle alors qu'on la transgresse sans vergogne. Enfin, on peut aussi renverser la table et agir ouvertement hors des règles ou en imposant les siennes. Toute action politique est gouvernée par une ou plusieurs de ces éthiques. L'examen réfléchi de ces options accroît les possibilités de l'homme d'État et réduit les risques de le trouver en défaut. Cesarino inclina légèrement la tête, l'expression songeuse. C'est donc ce qui rend la parole sans réelle importance. Tout dépend d'où l'on parle et à qui on s'adresse. À vous entendre, le mensonge est malgré tout une vertu politique. Cela dépend des circonstances. Le mensonge sera sans conteste une faute s'il te dessert plus qu'il ne te sert. Et en ce qui concerne ma visite au duc Ganelon, quel cap adopter? Si je vous suis bien, il serait plus habile de louvoyer entre la lettre de la règle et la friponnerie. Peut-être. Ou peut-être pas. En fonction du sens du vent, le timonier doit corriger sa gouverne. Il arrive que la tromperie soit plus risquée que profitable, quand elle ne se révèle pas simplement inutile. En fait, il convient d'embrasser la question avec plus de hauteur de vue. Dans le firmament de l'action politique, il existe une étoile qui distribue tout l'espace. C'est la victoire. Elle nous enseigne le principe premier. Il faut jouer gagnant. En fonction des circonstances, nous pratiquerons donc les quatre types d'éthique, en élisant toujours celle qui sera la plus fructueuse. Le grand homme coula un sourire paternel à son neveu. « Voilà pourquoi mes instructions sont évasives, » conclut-il. « Tu arrives en Bromel paré de ton cousinage ducal, de 600 000 florins et d'une flotte de guerre. Tu as donc de quoi faire tourner des têtes couronnées. Sois beau parleur, ne néglige aucune galanterie et cueille toutes les occasions qui se présenteront. » Au terme de cette petite leçon de choses, le podestat mit fin à notre conciliabule. Il ordonna à Matado de lui organiser une escorte et demanda à Scaltro qu'on lui propose une tenue un peu plus habillée, car il avait promis de faire une apparition au palais Soberano à l'occasion d'un madrigal offert par sa seigneurie Orgullo Soberano. Cesarino et le Sapientissime prirent congé et se retirèrent avec une discrétion bienséante. Je mis mes pas dans les leurs, mais en traînant un peu les pieds dans l'espoir d'échanger quelques mots avec le patron, une fois débarrassé du poulain et du sorcier. Le podestat, qui avait parfaitement compris mon manège, me fit signe de rester. Je n'en fus qu'à moitié soulagé. Sans doute croyait-il que j'avais des informations importantes à lui transmettre, alors que je ne ramenais qu'un bouquet d'ondis assez insipide. Il me faudrait faire un peu monter la sauce pour justifier mon incruste, avant d'en arriver à ce qui me chiffonnait vraiment. « Épargne-moi les préliminaires, » m'intima le patron, « et allons droit au but. » Il m'avait bien sûr deviné. En fait, ce n'était pas très étonnant, vu qu'il avait délibérément tramé de m'embarrasser. Il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait en m'envoyant à la cour de Bromel. « Merci de me dispenser du boniment, Excellence. » Vous savez de quoi je souhaiterais causer. J'ai mon idée, mais je te saurai gré de me la confirmer. Ses rapports à l'ambassade dans le duché, bien sûr.
Inutile de me remercier, Benvenuto. Je pense sincèrement que tu y es à ta place. » Sa réplique me laissa comme deux ronds de flanc. Qu'est-ce que c'était que cet humour à froid? Il se payait vraiment ma fiole? J'aspirais un coup pour ne pas prendre la mouche. Je veillerai sur le trésor comme sur la prunelle de mes yeux, dis-je en surveillant mon ton. Mais, sauf votre respect, Excellence, il y a un volet de la mission qui n'est pas clair. Je fais partie de l'ambassade? Ou je suis juste un Cerbère? Moi, ça ne me dérange pas de me cantonner à la sécurité et de laisser sa seigneurie, votre neveu, prendre toute la lumière.
Oh, pour cela, ne te fais aucun souci, répondit le podestat. De toute façon, Cesarino, vous volera sans peine la vedette.
Introduit par Scaltro, des valets de garde-robe entrèrent et exposèrent plusieurs tenues. Leonide Ducatore entreprit de les passer en revue. Sa distraction me parut de bon augure pour obtenir la faveur qui me débarrasserait d'une dangereuse confrontation.
Dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je me limite aux missions de garde,
glissai-je l'air de rien. Votre ambassadeur se chargera de toutes les relations publiques. Le patron se tourna à demi vers moi, un sourcil froncé. Qu'entends-tu par là? Que tu te déroberais aux formalités officielles? Mon boulot, c'est que l'or arrive à bon port. Je doute que vous m'envoyiez là-bas pour faire des ronds de jambes. Tu sais pourtant à peu près te tenir en société quand tu y mets du tien.
Pas de doute, le Dabuche était en train de me chambrer.
Cesse donc de jouer les idiots, poursuivit-il sur un ton plus raide. C'est aussi indigne de ton intelligence que de la mienne. Comment pourrais-je charger mon maître espion de convoyer la dot de la duchesse sans lui demander de présenter ses hommages à leurs altesses ducales? Tu es si redouté à Tchoudalia que ta réputation est faite dans les chancelleries étrangères, Benvenuto. En outre, il est plus que probable que Clarissima a évoqué ton cas devant son époux. Te dérober à tes devoirs ne paraîtrait pas seulement incivil, ce serait une grossière erreur.
Ganelon, le chancelier Diachécrimène, le connétable de Traval et, je gage, l'essentiel des chevaliers de l'hôtel ducal, se demanderaient ce que tu es venu ourdir subrepticement en Bromel. On nous soupçonnerait, toi et moi, des plus noirs desseins. Cela ruinerait en grande partie le bénéfice diplomatique de cette ambassade. Pour pallier une impression si déplorable, tu te fendras donc de ta plus belle révérence devant le duc et la duchesse.
J'encaissai stoïquement la mercuriale. Le podestat énonçait une évidence que je n'essayais même pas de discuter. Mais ce qui me sautait aussi aux yeux, c'était que ma simple présence dans cette délégation nous faisait courir un risque aussi grave qu'un manquement protocolaire. S'il le fallait, Excellence, je lécherai les pieds de ces hauts personnages, grognai-je. Vous me payez assez cher pour cela. Mais ce n'est pas ce qui pose problème. Le hic, c'est que Son Altesse Ducale, votre fille, m'a dans le nez. Alors, pour le bien de votre ambassade, je ne suis pas sûr que ce soit très indiqué que j'aille lui tirer mon chapeau.
Crois-tu que cela ne m'a pas effleuré l'esprit?
C'est le contraire que j'aurais du mal à concevoir.
Alors cela signifie que j'ai d'excellentes raisons de t'envoyer à la cour de Bromel.
Comme prendre plaisir à me bahuter, par exemple?
La remarque lui tira un sourire, mais il ne fit rien pour me détromper.
Franchement, tu as déjà connu pire comme brimade.
Mais toujours pour de solides raisons. Là, je ne comprends pas pourquoi vous m'exposez.
Parce que vous m'envoyez au-devant des coups de trique.
On la connaît tous les deux, Son Altesse Ducale, Clarissima. Dès qu'elle apprendra que je suis de la compagnie, elle va mettre les petits plats dans les grands pour m'en faire souper. J'en reviendrai plus lardé qu'une pelote de ce bal-là, si j'en reviens.
Je croyais pourtant que vous aviez effacé mon ardoise, après ce que j'ai fait pour vous au Palais Mastigia, après ce que j'ai fait pour vous et pour elle.
Pendant que je lui adressais ces jérémiades, le podestat parcourait des yeux ses différents costumes.
Il paraissait hésiter entre un juste au corps noir à boutons de perles et un pourpoint chamois à crevés cramoisis, discrètement galonné de fil d'or. Sois rassuré sur ce point. Pour ma part, ta dette est épongée, dit-il en effleurant les manches de ses habits. Je ne nourris plus de griefs à ton encontre.
Dans ce cas, pourquoi me livrer en pâture à votre fille ?
Précisément en raison de notre entente, répondit-il avec légèreté. À cause de cela, Clara nous en veut toujours, à tous les deux.
Je pris le temps de méditer cette réponse et ses implications. Je commençais à deviner où le patron voulait en venir, mais je n'étais pas sûr de cerner ses motifs profonds, et encore moins que cela me plaise. « Je vous sers de lampiste, » finis-je par grommeler. « Vous me balancez pour vous faire pardonner ?»«
On pourrait le présenter sous ce jour, » admit-il. « Mais cela reste une vision simpliste de mes desseins. »«
Vous ne croyez pas que m'envoyer à votre fille lui donnera un motif de plus de vous garder une dent ?»«
Eh bien, c'est un risque, en effet. »« Dis-moi, que me conseillerais-tu ? Le noir ou le chamois ? »
Il me fallut un instant pour suivre son coq à l'âne et réaliser qu'il me parlait de ses costumes. Le chamois, lâchai-je sans réfléchir. Il hocha la tête d'un air pénétré, puis énonça tranquillement
« Je vais mettre le noir. »
Avec la décence impudique des grands, il commença sur le champ à se faire déshabiller par Scaltro, tout en continuant à deviser avec moi.
« Ne sous-estimons pas ma petite Clara, » me disait-il. « Bien sûr, elle sera offusquée de te découvrir dans cette ambassade. Son premier mouvement nous sera donc hostile, à toi comme à moi. Mais c'est une fine mouche, et l'année qu'elle vient de passer dans cette cour où sa position est délicate n'aura fait qu'affiner son sens politique. Elle se rendra compte que l'insulter ou la menacer serait une inconséquence de ma part. » Alors que je lui verse sa dot jusqu'au dernier liard et que je prête une flotte de guerre à son mari. Je suis certain qu'elle démêlera assez vite le sens réel de mon geste et de ta présence.
Dans ce cas, elle est plus maligne que moi, parce que j'entrave toujours que Puik.
Allons, ne fais pas ta mauvaise tête, Benvenuto. Tu as parfaitement compris où je voulais en venir. Tu l'as même dit à l'instant. Tu es mon cadeau de réconciliation avec Clara.
Je dus le regarder avec un drôle d'air, alors qu'il se tenait là, devant moi, à moitié dessapé, pomponné par son vieux larbin. Dans mon existence bien remplie de méchants garçons, j'en avais déjà entendu des vertes et des pas mûres, mais celle-là, elle était quand même raide. Si j'avais une certitude chevillée au corps, c'est que je n'avais vraiment rien d'un cadeau, surtout avec ma gueule révisée et mon anneau du gourmand.
« Allons, ne fais pas cette tête !» s'amusa mon patron. « Clara ne te fera pas un sort.
Qu'est-ce que vous en savez ?»
Bien qu'ils aient été en froid, Clarissima Ducatore avait de qui tenir, et elle n'hésitait pas à prendre des parties aussi extrêmes que son paternel. Leur brouille avait déjà dégénéré en tuerie à la fin de la guerre civile. Une bringue où j'avais failli rendre les clés, et dont j'étais sorti le cou épinglé par quelques broches. Quant à la Péronnelle, elle avait gardé un vilain tic de cette noce. Remettre le couvert entre ces deux-là ne me chantait pas particulièrement. Quand la noblesse casse de la vaisselle, c'est toujours le petit personnel qui trinque. Elle comprendra très bien que je t'ai mis délibérément en son pouvoir. Poursuivait tranquillement Léonide Ducatore. Sans doute sera-t-elle tentée de te jouer un vilain tour, mais je suis persuadé qu'elle ne perdra pas de vue son intérêt. Or, tu es un instrument si utile, Benvenuto, qu'il serait dommage de se passer de tes services. D'autant qu'une partie de la noblesse bromaloise lui est hostile, et que certains suivants de son hôtel ne sont pas des plus habiles. Elle a besoin d'exécutants efficaces. Le gain qu'elle escomptera à obtenir de toi pèsera davantage sur sa conduite que la rancœur.
En gros, vous me prêtez à son Altesse ducale.
Oui,
mais officieusement. À toi ensuite de te montrer assez serviable pour nous réconcilier tous les trois.
Si je dois passer le torchon quelque part, qui versera mes gages?
Tes émoluments seront prélevés sur ma cassette, comme d'habitude.
Et si jamais le bon plaisir de son Altesse ducale consiste à marcher sur vos plates-bandes, je peux aller jusqu'où?
Agis avec discernement. Il serait fâcheux de mordre la main qui te nourrit.
Il ne portait plus qu'une chemise assez légère pendant que les valets s'activaient autour de lui. C'était une chose un peu déconcertante de causer ainsi affaire avec le podestat de la République en négligé.
Quand Léonide Ducatoré n'était pas corseté dans ses tenues sobres mais stylées, on lui découvrait un petit ventre, des épaules tombantes et le jarret maigrelet. La mollesse de ce corps jurait avec son front puissant et son regard aiguisé. Il avait le gabarit d'un cave que j'aurais pu plier d'une seule main. Et pourtant, l'aura de pouvoir émanait encore plus fort de cette constitution médiocre, comme un mystère. Ce physique si commun appartenait à un individu dont le bras s'étendait malgré tout à travers les villes, les terres et les océans.
Et tant que je serai dans le duché, vous voudrez peut-être que je vous fasse une course personnelle?
Veille à ce que l'or arrive à destination. Puis mets-toi en quatre pour plaire à ma fille. Voilà déjà un beau début. Par ailleurs, il nous reste quelques mois avant votre départ. J'aviserai d'ici là.
Il était clair qu'on avait fait le tour de la question. À trop ergoter, je risquais de devenir importun. Je fis mine de tirer ma révérence, mais le patron, qui venait d'enfiler son pourpoint, me retint encore d'un geste. Au fait, un dernier mot. Si les caprices de Clara se révèlent, disons, un peu intempestifs, arrange-toi pour les satisfaire de la façon la plus saillante possible.
Enfin, Excellence, vous me connaissez.
Justement, Benvenuto, justement.